Kessel est un de ces êtres à qui tout excès aura été permis. Et d'abord, dans la témérité du soldat et du résistant, et qui aura gagné l'univers sans avoir perdu son âme. François Mauriac.
D'histoire. Comme Albert Londres, Blaise Cendrars, Hemingway ou Lucien Bodard, Joseph Kessel a prouvé qu'on pouvait être à la fois un grand reporter et un grand écrivain. Journaliste, il a couvert sur tous les continents tous les grands événements du XXe siècle. Les deux guerres mondiales, la révolution russe, la révolte irlandaise, l'aventure de l'aéropostale, la guerre d'Espagne et la naissance de l'État d'Israël. Il en a tiré la matière de ses 80 romans dans lesquels on trouve toujours la qualité qui était essentielle à ses yeux, l'amitié. Celle qu'il avait éprouvée pour des gens aussi différents que Mermoz, Robin Gary, Nucera, Henri de Montfred, Raymond Moretti ou encore Jean Cocteau, qui avait dessiné pour lui son épée d'académicien quand il fut accueilli sous la coupole en 1962.
Nombre de votants 27, majorité absolue 14. Au premier tour, Monsieur Joseph Kessel, 14 voix élus. Monsieur Marcel Brion, 10 voix.
Au bas de l'escalier de l'Académie, j'ai rencontré Jean Cocteau. Maître Joseph Kessel est un de vos amis.
Ah oui, Kessel est une force de la nature et c'est un ami parfait.
Dès mon premier roman, j'ai eu besoin d'extérioriser un des besoins humains, à mon avis, les plus violents et les plus beaux, qui est l'amitié, que lorsqu'elle est parfaite, lorsqu'elle est complète, je mets au moins à l'égal de l'amour.
André Asseo, bonjour.
Bonjour.
Alors cette voix et cette amitié dont parlait Kessel à l'instant, vous avez eu l'occasion de la connaître puisque vous avez été vous-même un de ses amis les plus proches. Vous faisiez partie de ce que Kessel appelait sa garde rapprochée. Alors c'était pas rien, hein, quand on entend à quel niveau il plaçait l'amitié, au moins égal à l'amour, c'est-à-dire au fond supérieur à tous les sentiments.
Oui, je pense que l'amitié comptait plus encore que l'amour, dont il n'a jamais pu se passer. Mais l'amitié a toujours été pour lui la chose essentielle de sa vie, le maître mot de toute sa vie. Et il est certain que, l'ayant connu en 1959, ayant eu la chance de devenir son ami, ça a été le bonheur complet pour le jeune journaliste que j'étais alors.
Alors, cette rencontre, vous avez fait un livre très émouvant, hein, qui s'appelle Rêver Kessel, qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Alors, c'est pas une biographie, hein, ce sont plutôt des souvenirs et tout ce que Kessel, au fond, vous disait de sa vie, parce que dans ce livre, on retrouve toute la vie de Kessel depuis sa jeunesse, André Asseo.
Oui, c'est ça. C'est un genre de portrait éclaté de Kessel à travers différentes histoires de guerre, de bonheur, de malheur, de peine, de joie, de livres, de son œuvre, de tout ce que l'on peut imaginer, de sa famille, de ses frères, de ses femmes. Mmh. Et à travers toutes ces anecdotes, effectivement, on peut se rendre compte dans ce portrait éclaté ce qu'était la véritable personnalité de cet être exceptionnel.
Est né donc, puisqu'il avait plus de 60 ans quand vous l'avez rencontré, il est né en 1898, un peu par hasard en Argentine, ça il n'a pas pu en garder beaucoup de souvenirs, puisque à l'âge de 3 ans, son père, qui était d'origine russe, et sa mère l'amène à Orenbourg, en Russie. Alors là, en revanche, on se demande, quand on voit le portrait que vous faites de lui, André Asseo, si les racines russes, au fond, elles ne l'ont jamais quitté.
Elles ne l'ont jamais quitté. La preuve en est, c'est que, dans les dernières années de sa vie, les plus grandes joies qu'il pouvait avoir, les plus grands débordements qu'il pouvait avoir également, c'était dans les boîtes russes, chez les Russes blancs, chez Novski en particulier, qui était une boîte qui était près du Trocadéro, où dès qu'il rentrait, l'atmosphère changeait, on venait, on lui baisait la main. C'était le chantre de la Russie, incontestablement, et dès qu'il entendait des chants russes qu'il connaissait par cœur, par ailleurs, Gary, Gary, il était dans un état proche de l'émotion la plus grande, en se frottant le nez avec son geste favori.
Alors c'est marrant parce qu'il la quitte quand même à l'âge de 10 ans, hein. Ça a dû le marquer très profondément. Il arrive à Nice, il découvre la littérature, se passionne pour le théâtre, c'est même, je crois, son premier métier pratiquement de comédien. Et il est comédien avec son frère, Lazare, surnommé Lola, avec lequel, je crois, il a même joué à l'Odéon.
Oui, ils ont joué à l'Odéon ensemble. Il faut dire que dans cette période que vous soulevez, Patrice, il est certain que Kessel a fait des études absolument extraordinaires, puisqu'à 18 ans, il avait déjà passé sa licence de lettres, ce qui n'est pas rien, et il faisait conjointement du théâtre avec son frère Lazare, qui était lui un comédien, mais vraiment qui prenait une dimension extraordinaire. Il jouait avec le grand De Marx et autres gloires de l'époque. Et puis un jour, le drame est arrivé, et sans que personne ne puisse s'en douter, Lazare, dit Lola, s'est tiré une balle dans la tête, et ce fut sans doute le plus grand chagrin de la vie de Joseph Kessel, qui ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir compris les problèmes qui assaillaient l'esprit de son frère.
Alors, entre-temps, il était devenu, il avait commencé à faire du journalisme avant de participer à la Première Guerre mondiale. On l'écoute rappeler cet engagement au micro de Paris Inter en 1959.
En 1916, je me suis engagé, décidé à entrer dans l'aviation, et j'ai fait ma demande, et c'est comme ça que je suis entrer dans cette merveilleuse arme qui était encore, mais qui à l'époque vraiment était quelque chose de presque miraculeux, parce que il y avait très peu de gens qui avaient quitté la terre pour s'envoler dans ces assemblages de toiles, de bois, de fils de fer. Et après ayant passé mes examens d'observateur, j'ai été envoyé dans une escadrille dont j'ai raconté un peu la vie, et surtout le chef, le capitaine Thélis Vachon, dans mon premier roman, L'équipage. Oui.
Et L'équipage sera publié en 1923, s'inspirant, on vient de l'entendre, de la vie du pilote, du pilote Kessel pendant la Première Guerre. D'ailleurs, tous ces romans s'inspiraient de toutes ces aventures, et elles sont nombreuses, André Asselineau. En fait, ces romans, il les vivait avant de les écrire.
Ces romans ont tous été effectivement inspirés, du moins la plupart, par sa propre vie, par les gens qu'il a approchés. Sa plus grande œuvre romanesque, c'est Le Tour du Malheur, en 4 volumes, qu'il a écrit sur...
Elle est moins connue que les autres, pourtant. Oui.
Le Tour du Malheur, c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un chef-d'œuvre absolu, je vous engage à le lire. Il y a 4 volumes qui ont été écrits en l'espace de 10 années, et il est certain qu'à l'intérieur du Tour du Malheur, si on connaît un petit peu les personnages qui approchaient Kessel, on les retrouve tous. Car, effectivement, c'était avant tout une âme de journaliste, et l'âme du journaliste imposait l'âme de l'écrivain.
Mais du journaliste engagé, par exemple, il va, et au lendemain de la guerre, à la fin de la guerre, en 1918, il va à Vladivostok, il va se battre un peu aux côtés des Russes blancs, hein, évidemment, il déteste la révolution bolchevique, alors là, il va encore en tirer un livre qui s'appelle La Steppe Rouge.
Alors là, c'est
son passage à Vladivostok, vous en parlez souvent, André Asselineau.
Oui, la Steppe Rouge, c'est Vladivostok. Vladivostok est une aventure absolument extraordinaire.
L'extrême de la Sibérie, le bout du monde.
Voilà, le bout du monde, et tous les réfugiés chinois, russes, je ne sais pas, du monde entier venaient échouer dans ce port de Vladivostok, qui est vraiment au bout du monde, comme vous dites. Et là, il y avait une atmosphère absolument folle, et chaque pays envoyait un petit groupe d'aviateurs ou de soldats, de façon à ce que ce soit encore enlevé à l'hégémonie de l'Union soviétique. Et entre autres, il y avait à Vladivostok une boîte de nuit qui s'appelait l'Aquarium, dans laquelle Kessel a passé toutes ses nuits, et c'était des nuits folles, avec des gens complètement éméchés, complètement sous, dans des rapports humains absolument invraisemblables.
Alors on retrouve ça dans la Steppe Rouge, de même qu'on retrouve la Première Guerre mondiale dans L'équipage. Et à cette époque, donc, c'est au début des années 20, Kessel est déjà reconnu, est déjà célèbre à 25 ans. Son portrait à cette époque dans la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Oui, dans sa jeunesse déjà, Kessel, le brillant, le généreux, fascine tous ceux qu'il rencontre. Un de ses amis, Philippe Heria, se souvient du temps du lycée avec Joseph et son frère Lola. Éclatant de dons, dit-il, de précocité, de vigueur, de beauté et de joie, ils séduisirent leurs professeurs et passionnèrent les élèves. Tous pâlissaient devant le prestige des Kessel qui emportaient sans peine les prix les plus flatteurs en attendant les lauriers de théâtre dont ils rêvaient alors. Alors, Joseph Kessel fera dans le théâtre une carrière assez brève, mais remarquée, même dans la figuration. Son physique était remarquable, se rappelle Pierre Bertin de la Comédie Française. Grand, très beau de corps, une magnifique tête expressive, il avait une telle allure dans son costume Louis XIII. Alors, très tôt aussi, la vie de Kessel est placée sous le signe de l'amitié virile. Dans les années 20, par exemple, il fréquente le Tout Paris, les journalistes et les artistes, Henri Béraud, Georges Suarez, de Brinon, bon, des messieurs qui tourneront mal un peu plus tard sous l'occupation, mais aussi les compositeurs Darius Milhaud, Georges Auric, le danseur Diaghilev et l'écrivain Jean Cocteau. Cocteau, raconte Georges Auric, était très attiré par les types exceptionnels et il a senti tout de suite avec Kessel qu'il avait affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Il n'a pas voulu le laisser passer. Alors d'après le Yves Pourrière, ami et biographe de Kessel aussi, Cocteau était même amoureux de Joseph Kessel, ce qui n'empêchait pas celui-ci d'aimer Cocteau d'amitié. Alors c'est à cette époque aussi que Kessel découvre le plaisir des soirées interminables et bien arrosées. Un soir, dans un cabaret tzigane, Kessel et ses amis boivent tellement de champagne qu'ils n'ont plus de quoi payer. Et là encore, son charme opère. « Vous me paierez quand vous pourrez », lui dit le patron, « vous êtes des nôtres et vous aimez notre musique ». Mais les soirées d'ivresse se terminent parfois dans la bagarre. À une fête, un soir, raconte son ami Jean-Gérard Fleury, Kessel, se sentant insulté, tira violemment la nappe et brisa verre et assiette, puis saisissant un tabouret, il cassa une à une toutes les fenêtres du salon. Alors, goût de la fête, hein, de l'alcool, on l'a vu, et du jeu aussi. Un jour, raconte Kessel lui-même, pour pouvoir continuer à jouer à la belote avec mon frère, je ne suis pas allé à un rendez-vous qui m'avait été accordé par l'ex-président de la République, Millerand. Alors, c'est avec la même frénésie, le même appétit, on peut dire, que Kessel a aimé les femmes, en pas toujours avec élégance. Le soir de la mort de sa femme Sandy, atteinte de tuberculose, Kessel se console dans les bras de sa maîtresse. En 1927, dans son roman Nuit de prince, Kessel écrit sans complaisance de son héros Stéphane. Ainsi vivait-il, d'autant plus égoïste que son égoïsme n'était pas matériel. Il avait au même degré le génie de l'indifférence et celui de l'infidélité.
Alors ça, c'était le Kessel des années 20. Si vous l'avez connu à partir des années 60, c'était le même, on a l'impression, vous entendez
sourire. Oui, c'était le même. Oui. C'était exactement le même. C'est un homme qui a toujours été d'une fidélité formidable. Dans l'infidélité, il était fidèle.
Ah oui.
Car lorsque, dans le passage que vous venez de lire, on parle de Sandy qui est mort de tuberculose...
Et c'est sa première femme, je rappelle.
Sa première femme qui a adoré.
Rencontrer, c'est tout à fait Kessel, dans le bateau qui le conduisait de Shanghai à Marseille, hein, et qui l'épouse tout de suite après.
Absolument. Et ce fut vraiment un... très grand amour. Et même s'il l'a trompée, elle est restée, mais totalement présente en lui-même. Et toutes les autres femmes qu'il a eues, il leur imposait la photo de Sandy dans les meubles et également la collection de lettres qu'il conservait de Sandy. Il a profondément aimé, même dans l'infidélité. Ça, c'est important à dire quand même.
Il vous disait, j'avais parfaitement organisé ma vie amoureuse. Alors, il y a eu, après Sandy, ou en même temps que Sandy, il y a eu Sonia, hein, il y avait Germaine Sablon, il y avait Michel.
Katia.
Michel aussi. Alors là, c'est assez pathétique parce qu'elle était vraiment alcoolique.
Michel. Alors, Michel, il l'a connue pendant la guerre à Londres et il l'a épousée. Ce fut sa troisième épouse. Et Michel a vécu jusqu'à la mort de Jeff à ses côtés.
Jeff, c'était le nom que tous ses copains...
Oui, pardon, oui, je l'appelle Jeff parce qu'il interdisait qu'on l'appelle Joseph. Il détestait Joseph et dès qu'on était en amitié avec lui, il fallait l'appeler Jeff. Donc Kessel a vécu toute sa vie à partir de 43 avec Michel, laquelle effectivement était totalement alcoolique et a dû passer au moins 15 cures de désintoxication chez un ami docteur du côté de Luchon et ce fut un véritable martyr pour Kessel, mais l'âme russe faisant, bah, il en prenait un certain plaisir.
Alors Michel a rencontré, vous l'avez dit, André Asséo à Londres en 1943, où il a écrit d'ailleurs ce qui fut sans doute son œuvre la plus célèbre, non pas un roman, mais une chanson écrite avec son neveu Maurice Druon, le chant le plus célèbre de l'occupation, le chant des partisans.
Un peuple qui n'a pas de chanson est un peuple qui ne peut pas se battre. Ce qui serait bien, c'est de, pour les maquis, pour la résistance, d'avoir une chanson que on diffuserait naturellement des postes semés dans l'Angleterre, mais qu'on ferait passer pour une chanson anonyme des résistants. Et le lendemain, sur le lendemain, on s'est mis d'accord sur un air qui avait été écrit par une Russe d'origine qui s'appelait Anna Marley. L'air m'avait plu, et sur cet air, avec une facilité vraiment dérisoire, parce qu'on était porté par le sujet, nous avons écrit les paroles du chant des partisans, croyant de toute l'absolue bonne foi que c'était fini, que personne n'en parlerait plus.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Joseph Kessel avec André Asselineau.
Et c'était bien sûr le chant des partisans, si célèbre d'ailleurs qu'on oublie parfois, qu'il fut écrit par Joseph Kessel avec son neveu Maurice Druon, à l'époque où tous deux étaient dans la France libre, ce qui valut à Kessel d'être la cible en 1944 d'un ténor de la collaboration, Philippe Henriot.
Hier à 16h30, Londres a retransmis une émission de La Voix de l'Amérique en français. Sur un livre que vient de publier Joseph Kessel et qui s'appelle « L'armée des ondes ». Tout le monde a lu des ouvrages de Kessel. Certains d'entre eux témoignent d'un talent d'écrivain d'une singulière puissance. Mais Kessel est juif. La France, nous dit Kessel, n'a plus de pain, plus de feu, mais elle n'a plus de loi. Le héros national est le hors-la-loi. Et si la France n'a plus autant de pain qu'elle en devrait avoir, la faute en est au hors-la-loi quand bon israélite Kessel chérit particulièrement et qui se sont spécialisés dans la destruction des batteuses et des récoltes, dans le sabotage des transports, dans le pillage des boulangeries et des magasins.
Et voilà ce que l'on pouvait entendre sur les radios de la collaboration. Ça vous fait sourire, mais enfin, c'est un antisémitisme insensé. Et en même temps, Henriot reconnaît qu'il était un grand écrivain. Alors cela dit, peut-être que cette attaque est violente parce que Kessel, il le disait lui-même, était une espèce d'ambassadeur de la résistance.
Ce fut un ambassadeur de la résistance puisque il écrivait à Londres dans un journal qui s'appelle France. Il voyait assez souvent le général de Gaulle. C'est à la demande de de Gaulle qu'il a écrit L'armée des ombres et Le chant des partisans est devenu une chose tout à fait exceptionnelle. Et n'oublions pas qu'il a repris l'aviation à Londres et que dans les avions anglais, il parcourait en mission de reconnaissance la France occupée et qu'il a revu Paris, il revoyait les différentes avenues de Paris car il volait à très basse altitude et ce fut une des grandes émotions qu'il avait car la France était encore occupée et il prenait des risques inconsidérés sur ses avions de reconnaissance.
Autre grande émotion, André Asselineau, après la guerre, il reprend donc ses activités de journaliste. Il va notamment en Israël, je crois que c'est Pierre Lazareff qui l'envoyait, et il est même le premier étranger à avoir atterri dans le nouvel État d'Israël.
Exact, mais avant, il avait déjà été en Israël en 1926. Il avait fait là son premier voyage à l'assignation de Raïm Weizmann, qui beaucoup plus tard devenait le premier président d'Israël. Et effectivement, il est arrivé en Israël avec le passeport numéro 1 qu'il a conservé comme une relique, qu'il m'a montré, qu'il a vite recaché dans un tiroir secret, parce que c'est pour lui une aventure formidable. Et il est certain qu'Israël a beaucoup, beaucoup compté pour lui, qu'il s'est battu sur les idées d'Israël, qu'il a vécu les premiers kibbutz, qu'il ne comprenait pas comment tous ces gens pouvaient avoir le courage de fertiliser le désert, etc. Et il est certain que l'aventure d'Israël a été pour lui une aventure formidable. Il s'est fâché avec différentes personnes qui critiquaient un petit peu cette naissance-là.
Parce qu'il des aventures, il en a connu d'autres, André Asselineau. Alors ensuite, il continue. Alors on ne sait pas très bien, il y va comme journaliste, plus tellement hein, comme grand reporter. Par exemple, il va couvrir au Kenya la révolte des Mao Mao. Oui. Et il revient avec alors, le livre qui a été sans doute le plus célèbre et le plus lu et le plus vendu de Kessel, c'était Le Lion.
Le Lion, alors qu'il n'a jamais vu un lion de sa vie.
Ah bon ?
Mais par contre, il avait vu un monsieur qui s'appelle John Bullitt, qui est l'un des héros du livre, lequel lui a montré la photo de sa fille, Patricia, une petite fille blonde, qui était à côté d'une lionne. Et cette image l'a fortement troublé. Et il a changé la lionne par un lion parce que la disproportion était encore plus grande entre le gros lion et la petite fille. Et c'est tout ce qu'il a vu. Il aimerait, m'a-t-il dit, j'aimerais infiniment retrouver cette Patricia. Elle doit avoir 60 ans, mais comme je l'aimerais quand même.
Oui, alors il est même surpris, je crois, par la notoriété de ce livre, qui était presque un livre pour enfants. Il a écrit des livres très différents. Par exemple, Belle de jour, c'est quelque chose, c'est vraiment le Paris assez sombre qu'il décrit. Là, c'est le lion, c'est l'Afrique, c'est...
Et puis il y a Les mains du miracle, extraordinaire livre, extraordinaire aventure de ce Kirsten qui a guéri Himmler, mais... au prix de...
Ah oui, fort, ça c'est fabuleux.
Au prix fort, c'est-à-dire que Himmler souffrait de maux que personne ne pouvait guérir. Ce Kirsten arrivait par la position des mains à le guérir, mais en échange de la libération de centaines et de milliers de juifs, hollandais en particulier. C'est-à-dire qu'il exerçait un chantage contre la maladie de Himmler. Et c'est une chose formidable d'où Kessel a tiré ce roman Les mains du miracle. Mmh. C'est tout à fait extraordinaire, mais ça part effectivement toujours de faits réels.
Autre aventure et dernier voyage aussi, l'Afghanistan. Là, il en revient avec les cavaliers.
Oui, ce fut son dernier roman. L'Afghanistan a été quelque chose qui a énormément compté pour lui. Il avait fait d'ailleurs ce voyage avec Kerschendorfer. Et il est certain que la race forte de tous ces cavaliers, ces jeux terriblement viril, ces hommes dont les rides étaient plus profondes que les siennes, ça l'avait terriblement marqué. Et autant avec l'équipage, il avait eu de la facilité à écrire quand il était très jeune, puisqu'il avait mis 3 semaines, autant avec les cavaliers, il a eu des difficultés absolument terribles, puisqu'il a mis 2 ans, il pensait ne jamais arriver au bout.
Il avait une passion pour les peuples aussi, qui rencontraient pas seulement les amis, les Maasai du Kenya, les cavaliers d'Afghanistan. C'est ça au fond, est-ce que c'était pour écrire des livres qu'il allait là-bas, ou c'est
non,
parce qu'il allait là-bas qu'il écrivait des livres?
C'est un être curieux. Dès qu'il se passait quelque chose quelque part, Kessel désirait y être. Il désirait témoigner de ce qu'il voyait. Il ne cherchait pas à aller voir un territoire quelconque pour écrire. Il écrivait parce qu'il avait été frappé par quelque chose. Lazareff l'a très souvent envoyé dans des lieux divers. Il tirait une 15aine de reportages et il faisait monter le tirage du journal de 100 000 exemplaires.
Alors après l'Afghanistan, il ne va pratiquement plus voyager, il n'écrit plus beaucoup non plus. Andrea Seau, ça n'empêche pas de continuer à courir, à écumer les cabarets, les bars, avec ce qu'il appelait sa garde rapprochée. Donc c'était vous-même, hein, Andrea Seau. Il y avait qui aussi?
Il y avait Louis Nucera, il y avait Raymond Moretti, il y avait Yves Courrière, Georges Walter et moi. Mmh. On était vraiment les 5 doigts de sa main droite. Mmh.
Et tous bouleversés, bien sûr, par l'annonce de sa mort le 23 juillet 1979.
Le lion est mort. On l'a assez dit, mais c'est tout à fait vrai. Kessel, c'était un lion, un grand costaud, un homme qui donnait immédiatement le sentiment de la force, mais aussi de l'assurance. Une voix forte, mais une douceur infinie, des yeux d'aventurier.
Kessel, c'est quelqu'un qui a fait de sa vie d'homme un métier de seigneur. C'était quelqu'un qui était d'une génération qui est en train de revenir, d'ailleurs, l'envie... de ce rêve de remonter son cheval pour aller dans le royaume d'utopie revient dans le monde entier. Et je pense qu'il meurt au moment où on a à nouveau besoin de lui. C'est-à-dire qu'il meurt, et ses livres, en dehors de critiques littéraires, en dehors d'analyse, ces livres qui ne sont pas des livres d'analyse, qui ne sont pas des livres de l'en-soi existentiel, mais on aura besoin à nouveau de ça, parce que de plus en plus, on a besoin de savoir qu'il n'y a pas le bonheur dans 20 ans, un bonheur collectif, il y a à nouveau des millions de vies à vivre. Et ça, Jeff Kessel l'avait compris mieux que personne.
Kessel a fait de sa vie un métier de seigneur. C'est beau cette formule de Frédéric Rossif le jour de la mort de Kessel, André Seu.
Superbe, ce fut un jour terrible. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur, peut-on dire, ou le déshonneur, je ne sais, de porter son cercueil jusqu'au cimetière Montparnasse. Et puis, je voudrais pas terminer sans dire une formule que Kessel devait employer chaque fois qu'il partait en voyage, si petit était le voyage. C'est une formule tirée de La guerre et la paix de Tolstoï, que je rappelle souvent dans le livre, Dobrychas Zbogom, ça veut dire dire que l'heure nous soit favorable et que Dieu nous protège.
Mais c'est beau. Rossif disait aussi, il parlait d'une génération d'écrivains qui est en train de revenir, il disait ça en parlant de Kessel, et pourtant, malgré l'immense succès des livres de Kessel, il n'a jamais été vraiment considéré comme un écrivain majeur. On disait un peu avec mépris, non, c'est d'abord un journaliste, etc. J'ai même été surpris, il m'arrive d'ouvrir de temps en temps le célèbre Lagarde et Michard, le manuel de français des lycéens, et bien il n'y a pas le nom de Kessel.
Mais il faut dire aux auteurs de cet ouvrage qu'ils auraient révisé leur littérature.
Oui.
Que puis-je dire d'autre ? Personnellement, je trouve que Joseph Kessel est un personnage irremplaçable, au vrai sens du mot irremplaçable, que c'est un formidable écrivain avec 80 ouvrages. C'est un homme qui a vécu, qui a écrit et qui a été magnifique dans toutes ses aventures humaines.
Parce que on dit, au fond, c'est un homme engagé. Il s'est engagé très courageusement dans sa vie, aussi bien de reporter que de soldat. Mais on disait, au fond, c'est pas un intellectuel. Il était peut-être pas très à la mode. Il y avait le nouveau roman à l'époque.
Oui, le nouveau roman, il s'en est jamais totalement préoccupé. Vous savez, quand on avait déjà le passé de Kessel, on continuait sur sa propre lancée sans décevoir personne.
En tout cas, Kessel, on le retrouve dans votre livre, et votre livre qui est un livre d'amis de Kessel, Rêver Kessel, donc publié par André Asséo aux éditions du Rocher. Vous avez également écrit Souvenirs inexacts, un livre publié aux éditions Nil. Et je rappelle, bien sûr, André Asséo, qu'on peut vous entendre tous les samedis à 16h sur France Inter dans votre émission consacrée au cinéma, ciné-film. À lire également la biographie très complète de Joseph Kessel, écrite par Yves Courrière et parue en poche chez Pocket, Joseph Kessel ou Sur la piste du lion. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Lydouine Caron, Olivier Daligo et Anne-Laure Cochet. Documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Manuela Sherman. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.